2. Car il ne fut jamais dupe. Je ne crois pas que le Virginien, qui a tranquillement écrit en plein débordement démocratique « Le peuple n'a rien à faire avec les lois, si ce n'est de leur obéir », ait jamais été une victime de la sagesse moderne. Et le nez d'une populace, c'est son imagination. C'est par ce nez qu'on pourra toujours facilement la conduire. Et cent autres passages où la raillerie pleut, drue comme mitraille, mais cependant nonchalante et hautaine. Les Swedenborgiens le félicitent de sa révélation magnétique. Semblables à ces naïfs illuminés qui jadis surveillaient dans l'auteur du diable amoureux un révélateur de leur mystère. Ils le remercient pour les grandes vérités qu'il vient de proclamer, car ils ont découvert, ô vérificateur de ce qui ne peut pas être vérifié, que tout ce qu'il a énoncé est absolument vrai. Bien que d'abord, avouent ces braves gens, ils aient eu le soupçon que ce pouvait bien être une simple fiction. Poe répond que, pour son compte, il n'en a jamais douté. Faut-il encore citer ce petit passage qui me saute aux yeux, tout en feuilletant pour la centième fois ces amusants marginalia, qui sont comme la chambre secrète de son esprit? L'énorme multiplication des livres dans toutes les branches de connaissances est l'un des plus grands fléaux de cet âge, car elle est un des plus sérieux obstacles à l'acquisition de toute connaissance positive. Aristocrate de nature plus encore que de naissance, le Virginien, l'homme du Sud, le Byron égaré dans un mauvais monde, a toujours gardé son impassibilité philosophique et, soit qu'il définisse le nez de la populace, soit qu'il raille les fabricateurs de religions, soit qu'il bafoue les bibliothèques, il reste ce que fut et ce que sera toujours le vrai poète. Une vérité habillée d'une manière bizarre, un paradoxe apparent, qui ne veut pas être coudoyé par la foule et qui court à l'extrême orient quand le feu d'artifice se tire au couchant. Mais voici plus important que tout. Nous noterons que cet auteur, produit d'un siècle infatué de lui-même, enfant d'une nation plus infatuée d'elle-même qu'aucune autre, a vu clairement, a imperturbablement affirmé la méchanceté naturelle de l'homme. « Il y a dans l'homme, dit-il, une force mystérieuse dont la philosophie moderne ne veut pas tenir compte. Et cependant, sans cette force innommée, sans ce penchant primordial, une foule d'actions humaines resteront inexpliquées, inexplicables. Ces actions n'ont d'attrait que parce qu'elles sont mauvaises, dangereuses. Elles possèdent l'attirance du gouffre. Cette force primitive, irrésistible, est la perversité naturelle qui fait que l'homme est sans cesse et à la fois homicide et suicide, assassin et bourreau. Car, ajoute-t-il, avec une subtilité remarquablement satanique, l'impossibilité de trouver un motif raisonnable suffisant pour certaines actions mauvaises et périlleuses pourrait nous conduire à les considérer comme le résultat des suggestions du diable, si l'expérience et l'histoire ne nous enseignaient pas que Dieu en tire souvent l'établissement de l'ordre et le châtiment des coquins. Après s'être servi des mêmes coquins comme de complices, tel est le mot qui se glisse, je l'avoue, dans mon esprit, comme un sous-entendu aussi perfide qu'inévitable. Mais je ne veux, pour le présent, tenir compte que de la grande vérité oubliée, la perversité primordiale de l'homme, et ce n'est pas sans une certaine satisfaction que je vois quelques épaves de l'antique sagesse nous revenir d'un pays d'où on ne les attendait pas. Il est agréable que quelques explosions de vieilles vérités sautent ainsi au visage de tous les complimenteurs de l'humanité, de tous ces dorloteurs et endormeurs qui répètent sur toutes les variations possibles de ton Je suis né bon, et vous aussi, et nous tous, nous sommes nés bons. » Oubliant, non, feignant d'oublier, ces égalitaires à contresens, que nous sommes tous nés marqués pour le mal. De quel mensonge pouvait-il être dupe, celui qui parfois, douloureuse nécessité des milieux, les ajustait si bien? Quel mépris pour la philosophaillerie, dans ses bons jours, dans les jours où il était, pour ainsi dire, illuminé. Ce poète, de qui plusieurs fictions semblent faites à plaisir pour confirmer la prétendue omnipotence de l'homme, a voulu quelquefois se purger lui-même. Le jour où il écrivait, toute certitude est dans les rêves. Il refoulait son propre américanisme dans la région des choses inférieures. D'autres fois, rentrant dans la vraie voie des poètes, obéissant sans doute à l'inéluctable vérité qui nous hante comme un démon, il poussait les ardents soupirs de l'ange tombé qui se souvient des cieux. Il envoyait ses regrets vers l'âge d'or et l'Éden perdu. Il pleurait toute cette magnificence de la nature, se recroquevillant devant la chaude haleine des fourneaux. Enfin, il jetait ses admirables pages, colloque entre Monos et Una, qui eussent charmé et tout troublé l'impeccable Demestre. C'est lui qui a dit à propos du socialisme, à l'époque où celui-ci n'avait pas encore un nom, où ce nom du moins n'était pas tout à fait vulgarisé, le monde est infesté actuellement par une nouvelle secte de philosophes, qui ne sont pas encore reconnus comme formant une secte et qui conséquemment n'ont pas adopté de nom. Ce sont les croyants à toute vieillerie, comme qui dirait prédicateurs envieux. Le grand prêtre dans l'Est est Charles Fourier, dans l'Ouest, Horace Greeley. Et grands prêtres, ils sont à bon escient. Le seul lien commun parmi la secte est la crédulité. Appelons cela démence et n'en parlons plus. Demandez à l'un d'eux pourquoi il croit ceci ou cela. Et, s'il est consciencieux, les ignorants le sont généralement, il vous fera une réponse analogue à celle que fit Talleyrand quand on lui demanda pourquoi il croyait à la Bible. « J'y crois, dit-il, d'abord parce que je suis évêque d'Autun, et en second lieu, parce que je n'y entends absolument rien. Ce que ces philosophes-là appellent argument est une manière à eux de nier ce qui est et d'expliquer ce qui n'est pas. Le progrès, cette grande hérésie de la décrépitude, ne pouvait pas non plus lui échapper. Le lecteur verra, en différents passages, de quels termes il se servait pour le caractériser. On dirait vraiment, à voir l'ardeur qu'il y dépense, qu'il avait à s'en venger comme d'un embarras public, comme d'un fléau de la rue. Combien eût-il ri de ce rire méprisant du poète qui ne grossit jamais la grappe des badauds, s'il était tombé, comme cela m'est arrivé récemment, sur cette phrase mirifique qui fait rêver aux bouffonnes et volontaires absurdités des paillasses, et que j'ai trouvé se pavanant perfidement dans un journal plus que grave. Le progrès incessant de la science a permis tout récemment de retrouver le secret perdu et si longtemps cherché de feu grégeois, trempe de cuivre, n'importe quoi disparu, dont les applications les plus réussies remontent à une époque barbare et très ancienne. Voilà une phrase qui peut s'appeler une véritable trouvaille, une éclatante découverte, même dans un siècle de progrès incessant. Mais je crois que la momie à la Mystacheo n'aurait pas manqué de demander, avec le ton doux et discret de la supériorité, si c'était aussi grâce au progrès incessant, à la loi fatale, irrésistible du progrès, que ce fameux secret avait été perdu. Aussi bien, pour laisser là le ton de la farce, en un sujet qui contient autant de larmes que de rires, N'est-ce pas une chose véritablement stupéfiante de voir une nation, plusieurs nations, toute l'humanité bientôt, dire à ces sages, à ces sorciers « Je vous aimerai et je vous ferai grand si vous me persuadez que nous progressons sans le vouloir, inévitablement, en dormant. Débarrassez-nous de la responsabilité. Voilez pour nous l'humiliation des comparaisons. Sophistiquez l'histoire. Et vous pourrez vous appeler les sages des sages. » N'est-ce pas un sujet d'étonnement que cette idée si simple n'éclate pas dans tous les cerveaux? Que le progrès, en tant que progrès, y est, perfectionne la douleur à la proportion qu'il raffine la volupté, et que, si l'épiderme des peuples va se délicatisant, ils ne poursuivent évidemment qu'une Italiam fugientem, une conquête à chaque minute perdue, un progrès toujours négateur de lui-même. Mais ces illusions, intéressées d'ailleurs, tirent leur origine d'un fond de perversité et de mensonge, météore des marécages, qui pousse au dédain les âmes amoureuses du feu éternel, comme Edgar Poe, et exaspère les intelligences obscures, comme Jean-Jacques, à qui une sensibilité blessée et prompte à la révolte tient lieu de philosophie. Que celui-ci eut raison contre l'animal dépravé, cela est incontestable, mais l'animal dépravé a le droit de lui reprocher d'invoquer la simple nature. La nature ne fait que des monstres, et toute la question est de s'entendre sur le mot « sauvage ». Nul philosophe n'osera proposer pour modèle ces malheureuses hordes pourries, victimes des éléments, pâture des bêtes, aussi incapable de fabriquer des armes que de concevoir l'idée d'un pouvoir spirituel et suprême. Mais, si l'on veut comparer l'homme moderne, l'homme civilisé, avec l'homme sauvage, ou plutôt une nation dite civilisée avec une nation dite sauvage, c'est-à-dire privée de toutes les ingénieuses inventions qui dispensent l'individu d'héroïsme, qui ne voit que tout l'honneur est pour le sauvage? Par sa nature, par nécessité même, il est encyclopédique, tandis que l'homme civilisé se trouve confiné dans les régions infiniment petites de la spécialité. L'homme civilisé invente la philosophie du progrès pour se consoler de son abdication et de sa déchéance, cependant que l'homme sauvage, époux redouté et respecté, guerrier contraint à la bravoure personnelle, poète aux heures mélancoliques où le soleil déclinant invite à chanter le passé et les ancêtres, rase de plus près la lisière de l'idéal. Quelle lacune oserons-nous lui reprocher? Il a le prêtre, il a le sorcier et le médecin, que dis-je? Il a le dandy, suprême incarnation de l'idée du beau, transporté dans la vie matérielle, celui qui dicte la forme et règle les manières. Ses vêtements, ses parures, ses armes, son calumet, témoignent d'une faculté inventive qui nous a depuis longtemps désertés. Comparerons-nous nos yeux paresseux et nos oreilles assourdies à ces yeux qui percent la brume, à ces oreilles qui entendraient l'herbe qui pousse? Et la sauvagesse, à l'âme simple et enfantine, animal obéissant et câlin, se donnant tout entier, sachant qu'il n'est que la moitié d'une destinée, la déclarerons-nous inférieure à la dame américaine dont M. Belgarigue, rédacteur du Moniteur de l'épicerie, a cru faire l'éloge en disant qu'elle était l'idéal de la femme entretenue? Cette même femme, dont les mœurs trop positives ont inspiré à Edgar Poe, lui si galant, si respectueux de la beauté, les tristes lignes suivantes. Ces immenses bourses, semblables aux concombres géants, qui sont à la mode parmi nos belles, n'ont pas, comme on le croit, une origine parisienne. Elles sont parfaitement indigènes. Pourquoi une pareille mode à Paris, où une femme ne sert dans sa bourse que son argent. Mais la bourse d'une Américaine, il faut que cette bourse soit assez vaste pour qu'elle y puisse enfermer tout son argent, plus toute son âme. Quant à la religion, je ne parlerai pas de Vitzili Putzli aussi légèrement que l'a fait Alfred de Musset. J'avoue sans honte que je préfère de beaucoup le culte de Teutates à celui de Mammon. Et le prêtre qui offre au cruel extorqueur d'hosties humaines des victimes qui meurent honorablement, des victimes qui veulent mourir, me paraît être tout à fait doux et humain comparé aux financiers qui n'immolent les populations qu'à son intérêt propre. De loin en loin, ces choses sont encore entrevues. Et j'ai trouvé une fois dans un article de M. Barbey d'Orvilly une exclamation de tristesse philosophique qui résume tout ce que je voudrais dire à ce sujet. Peuple civilisé, qui jetait sans cesse la pierre aux sauvages, bientôt, vous ne mériterez même plus d'être idolâtre. Un pareil milieu, je l'ai déjà dit, je ne puis résister au désir de le répéter, n'est guère fait pour les poètes. Ce qu'un esprit français, supposé le plus démocratique, entend par un État, ne trouverait pas de place dans un esprit américain. Pour toute intelligence du vieux monde, un État politique a un centre de mouvement qui est son cerveau et son soleil, des souvenirs anciens et glorieux, de longues annales poétiques et militaires, une aristocratie à qui la pauvreté, fille des révolutions, ne peut qu'ajouter un lustre paradoxal. Mais cela, cette cohue de vendeurs et d'acheteurs, ce sans-nom, ce monstre sans tête, se déporter derrière l'océan, un État, je le veux bien, si un vaste cabaret où le consommateur afflue et traite d'affaires sur des tables souillées, au tintamarre des vilains propos, peut être assimilé à un salon, à ce que nous appelions jadis un salon, république de l'esprit présidée par la beauté. Il sera toujours difficile d'exercer noblement et fructueusement à la fois l'état d'homme de lettres sans s'exposer à la diffamation, à la calomnie des impuissants, à l'envie des riches, cette envie qui est leur châtiment, aux vengeances de la médiocrité bourgeoise. Mais ce qui est difficile dans une monarchie tempérée ou dans une république régulière devient presque impraticable dans une espèce de Capharnaüm où chaque sergent de ville de l'opinion fait la police au profit de ses vices, ou de ses vertus, c'est tout un. Où un poète, un romancier d'un pays à esclaves, est un écrivain détestable aux yeux d'un critique abolitionniste. Où l'on ne sait quel est le plus grand scandale, le débraillé du cynisme ou l'imperturbabilité de l'hypocrisie biblique. Brûler des nègres enchaînés, coupables d'avoir senti leurs joues noires fourmiller du rouge de l'honneur, jouer du revolver dans un parterre de théâtre, établir la polygamie dans les paradis de l'Ouest, que les sauvages, ce terme a l'air d'une injustice, n'avaient pas encore souillé de ces honteuses utopies, afficher sur les murs, sans doute pour consacrer le principe de la liberté illimitée, la guérison des maladies de 9 mois, tels sont quelques-uns des traits saillants, quelques-unes des illustrations morales du noble pays de Franklin, l'inventeur de la morale de comptoir, le héros d'un siècle voué à la matière. Il est bon d'appeler sans cesse le regard sur ces merveilles de brutalité en un temps où l'américanomanie est devenue presque une passion de bon ton, à ce point qu'un archevêque a pu nous promettre sans rire que la Providence nous appellerait bientôt à jouir de cet idéal transatlantique.